Salut le monde, ici Kevin Fu et mon cher acolyte
Fitz le brasseur.
Très heureux de vous revoir aujourd'hui.
Si, bon, mon Kev, t'es en feu à matin, qu'est-ce qui se passe, t'sais? As-tu bien dormi?
Ben oui, j'ai bien dormi, j'en avais besoin. On a besoin de se reprendre un petit peu de force pour pouvoir être un petit peu plus intéressant pour vous autres le matin. Puis aujourd'hui, on va vous parler d'une bière qui m'a fait apprendre à aimer ce type de bière-là.
On parle de la Corona aujourd'hui?
Entre autres, mais ça, c'est une autre histoire. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu au podcast numéro 9. Et que, en fin de compte, la dernière fois, on avait parlé qu'on était supposé vous faire quelque chose de différent, mais en fin de compte, question de timing, on va reporter ça au prochain podcast.
En gros, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est on veut aller dans certaines micros, je donne un petit cue, puis ben, ça n'a pas à donner, puis genre, on n'avait pas trop le temps dernièrement de tout cet été. Fait qu'on a décidé de vous faire un petit podcast dernière minute pour le retour des vacances, avoir quelque chose d'intéressant à écouter quand vous allez revenir des vacances de construction. Puis, ou si vous en allez à vacances, puis tout le monde s'en va présentement. Où, mon Kev?
Chez eux, dans leur cour.
Ouais, ou en Gaspésie, puis aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que vous avez un gros 8 à 9 heures de route à faire. Fait que vous pouvez écouter les podcasts du Brasseur avec mon ami
Kev en fût.
Pour le monde qui ne connaisse pas Kev en fût, c'est un amateur de bière vraiment, 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 vraiment perfectionniste. Il y a maintenant une story, pas une story, mais une page Facebook et un Instagram. Kevin est sur Instagram, fait que si vous voulez le suivre, c'est kev.en.fût. C'est ça, Kev?
En plein ça. Que ça va de mieux en mieux. Les gens apprécient, me donnent un feedback, puis ainsi de suite. Fait que, moi, je fais ça toujours pour le plaisir. Puis, une petite tranche de vie très intéressante. J'ai pu faire un enregistrement télé pour une émission qui s'appelle l'Indice McSween, qui était sur les finances, à savoir est-ce que ça vaut la peine ou non de brasser sa bière à la maison. C'était super intéressant. Moi, j'ai eu du plaisir de pouvoir vivre l'autre côté de l'enregistrement, mais beaucoup plus professionnel, avec une grosse équipe, puis ainsi de suite.
De quoi tu parles, beaucoup plus professionnel?
OK, il y avait environ une dizaine de personnes, comme l'équipe juste pour le son, le tournage, le directeur, le...
Kev.
Je sais, t'as besoin d'un fit.
J'ai à peu près 800 personnes dans ma tête. C'est juste que tu peux pas toutes les voir.
Oui, ils parlent toutes en même temps dans ta tête aussi.
Exactement.
C'était intéressant. C'était cool comme expérience. Ça devrait sortir au mois d'octobre. Et que je vais pouvoir poster ça éventuellement sur mes pages juste pour le trip de partager ça avec vous.
Puis j'espère que tu as parlé du podcast durant ton interview parce que c'est quand même important notre podcast.
Ben, c'est le même qu'on m'a présenté. On m'a dit que c'est Kev en fût qui a ses réseaux sociaux, Kev en fût et ainsi qu'il y a son podcast. Et on devrait avoir peut-être des montages là, de photos qui vont être rajoutés à la caméra versus mes réseaux sociaux. Puis on va peut-être mettre un mini segment de podcast de présentation qu'on devrait leur envoyer sous peu.
Pour le monde qui ne me connaisse pas, je suis Fitz le Brasseur, propriétaire de la boutique du Brasseur Adelson, aussi disponible en ligne pour le reste du Canada, si vous voulez, au www.lebrasseur.ca. Ça sonne croche un matin. Pas ces cigarettes hier soir. Fait que on est à notre podcast numéro 9, un peu improvisé dernière minute, mais en même temps, je suis vraiment content de le faire parce que, tu sais, pour le monde qui me suit déjà sur pas mal de mes réseaux sociaux, puis Kev qui me connaît assez bien, quand je prends un trip de quelque chose, je suis incroyable. L'année passée, c'était les types anglaises, je buvais juste des types anglaises. Je voulais rien savoir des autres types de bières. C'est juste ça que je pouvais boire, puis c'est juste ça que j'avais le goût de boire. Quand j'ai une musique en tête, je peux la mettre sur repeat pendant un mois, sans arrêt, la même tune. Demander à ma blonde, elle capote à tous les fois, elle est comme toi, puis ta maudite musique.
Puis en plus, il y a des employés à cette heure, il y a d'autres mondes pour les écœurer.
Exactement. Puis quand je prends un toc, là, c'est comme plus fort que moi, c'est jusqu'à temps que je m'écœure. Puis après ça, là, je suis bon pour un bout de sans boire ou changer de tune ou de bière. De ce temps-ci, avec la chaleur, le COVID-19, puis tu sais, on est plus renfermé à la maison. On remarque que dans mon cas, je suis tout le temps renfermé dans la boutique.
Ah, qu'est-ce que c'est la vie d'avoir sa propre business, puis vu que tu es en demande, ben, tes horaires sont en conséquence des besoins des gens. Et que si tu veux payer ton loyer et tu veux avoir de la bouffe sur la table et de la bière en extra, tu n'as pas le choix d'être disponible.
Fait que j'ai pogné un trip de lager. Hein? Vous voyez juste ici à ma droite ou à votre gauche, C'est, pour vous autres, c'est la gauche, pour moi, c'est la droite.
Ou dans la caméra ou au podcast audio.
Oui, c'est ça, audio, vous le voyez pas, mais on a le fermenteur conique de Grandfather qui est disponible au brasseur en passant. Avec, il est dessus son glycol pack, c'est un beau petit kit, un par-dessus l'autre. Puis, depuis que j'ai ça, je fais quelques lagers une fois de temps en temps. Kevin, il est super bien équipé aussi. Kev, tu en as combien de fermenteurs, toi?
J'ai 3 fermenteurs puis un refroidisseur au glycol.
Fait que Kevin aussi, il fait beaucoup de lagers puis il contrôle vraiment bien ses températures. On a décidé de vous faire le podcast sur le type lager, mais là, on fera pas comme, mettons, une L. Là. Il y a trop de styles pour un seul podcast. Fait qu'on s'est décidé de se spécialiser plus dans le genre de pilsner ou bière commerciale. On pourrait le dire un peu comme ça. T'sais, pilsner, puis... Tu sais, je sais que la Corona n'est pas brassée avec du pils, c'est brassé avec du Durant, puis probablement que la Stella Artois aussi, à moins que ce soit marqué Pilsner dessus.
Bien, non.
Non, fait que c'est sûrement brassé avec du Durant aussi, ou peut-être du pils, je sais pas. C'est quoi marqué dans les écrédits, ça? Mais pour une fois, c'est rare qu'on fait un podcast comme ça. On n'est pas allé dans une microbrasserie québécoise. On est allé vers une bière que je pense qui a fait découvrir beaucoup les lagers à Kev quand il venait ici.
Oui, écoutez, la Cité Moinsault qui est faite de la compagnie depuis des années, ils brassaient simplement leur Pilsner. C'était la seule chose qu'ils brassent. L'année passée, ils ont commencé à sortir une Pale Ale que je pense qu'on n'a pas disponible ici au Québec, mais qu'on a maintenant disponible depuis peut-être un an approximativement, la Cité Moinsault.
Un an et demi, ouais.
C'est vraiment bien fait. Et une fois que j'ai fini, j'en veux une deuxième parce que c'est, je trouve, pour moi, c'est une des meilleures Pilsner que j'ai goûté. Puis c'est ça qui m'a fait, après ça, prendre le risque, entre parenthèses, selon mes goûts, d'aller essayer d'autres microbrasseries un peu partout au Québec pour trouver des différentes Pilsner. Vous allez quand même avoir sur le marché des saveurs qui vont un peu varier, qui des fois sont beaucoup plus côté sucrin. Dans ce temps-là, moi, ça vient pas me chercher. Mais j'ai goûté ça très souvent, puis d'autres fois, c'est plus balancé, un peu rond en bouche, puis ainsi de suite. Puis là, c'est là que je tombe en amour avec. Et que on peut appeler ça aussi une bière de soif.
On peut appeler ça une bière de soif. Puis la Cité Moinsault est faite en Ontario, les amis. C'est une microbrasserie ontarienne. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter cette bière-là pour un petit peu encourager le reste du Canada. On brasse des très bonnes bières au Québec, mais celle-là est vraiment, vraiment dure à battre. Puis souvent, elle est disponible en paquet de 4. On peut l'avoir à l'unité, mais aussi en paquet de 4. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une bière que tu veux nous ouvrir un autre. Fait qu'en paquet de 4, un petit 11$ pour le 4-pack, hein?
C'est ce qu'on dit? Oui, le 4-pack de 500 ml.
Fait que c'est pas super cher. Puis c'est une très, très, très bonne bière côté micro plus ontarienne. On a aussi emmené 2 autres types de bières. C'est un peu pour faire un petit clin d'œil. Si le monde qui nous regarde, on les voit présentement à la caméra. Une Stella Artois, hein? La Stella, c'est quelque chose que tout le monde pas mal connaît, qui est disponible dans bien des bars au Québec. Et une Corona que si vous êtes un fan de Mexique... Ben, soit ça ou de la Montelo.
Ça c'est celle de l'Italie, ça.
OK, non, c'est quoi l'autre d'abord? C'est au Mexique, il y en a 2. Il y a
la Sol.
La Sol, ou la Sol.
Fait que, la Dos Equis.
La Dos Equis. Ouais, j'ai le gros bonhomme, là, tu sais, en arrière. Là.
Avec la barbe.
Là. Avec la barbe, dans un miroir, c'était carrément. Man. Fait que c'est un peu le type qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. T'sais, on va plus se concentrer sur la Pilsner, malgré que... On va parler un peu des défauts aussi des bières qu'il peut avoir dans ce type de bière-là. C'est un procédé un peu plus complexe que faire une ale. Ça, on a besoin d'un petit peu plus de matériel. On a des choses un petit peu à faire différemment quand on va construire notre bière en réalité. Là, le gros défi d'une lager, c'est pas nécessairement de la brasser. Oui, c'est de la brasser parce qu'on a-tu des places... À l'erreur, y a-tu quelque chose qui cache un goût là-dedans?
Malheureusement, c'est quand on dit un exemple, quand on au Québec, là, qu'on a grandi avec la bleu, pas la bleu dry, mais la Molson Dry, puis ainsi de suite, puis ça goûte les bières commerciales, puis ainsi de suite, puis dire oh, j'aime ça cette bière-là, je voudrais en faire une à la maison. Ça fait quand même partie des bières les plus difficiles à reproduire à la maison. Parce que c'est tellement léger comme goût, on ne cache rien que le houblon, on ne cache rien avec du grain torréfié, que tous les problèmes, les défauts qui peuvent aller au niveau de la conception de la bière quand on va faire certaines étapes ou si on n'a pas contrôlé certaines températures, on va tout ressortir ces mauvais goûts-là. Et qu'on veut que ça soit clean, que ce soit facile à boire, mais c'est pas facile.
L'autre chose aussi que j'aime pas entendre d'un bière commercial, c'est que le monde souvent va dire que ça goûte la pisse ou que c'est pas bon. Écoutez, c'est les bières les plus vendues au monde. vous pouvez pas me faire à craire que c'est des bières qui goûtent pas bonnes ou qui goûtent la pisse. Puis si votre pisse goûte ça, commercialise-moi ça, cette pisse-là, mon chum. Tu vas être multimillionnaire. Bois de l'eau puis pisse, tu vas voir, c'est assez incroyable.
On appelle ça du recyclage.
Du recyclage, exactement, comme les monde qui boit de la pisse de chameau pour boire plus de bière, là. C'est ça?
Je sais pas, mais c'est dégueulasse, son histoire.
mais c'est ça. Fait, arrêtez de dire au monde que ça goûte la pisse et que c'est pas bon. Ça n'a pas la palette de goût que vous aimez. C'est peu goûteux. Oui, je suis d'accord avec ça, que ça goûte pas super beaucoup la bière ou le grain. Ça a plus tendance à être soft pour passer pour monsieur tout le monde. Par contre, c'est pas mieux de dire que la bière-là, elle goûte pas bonne, tandis qu'elle, elle goûte bonne. Décrivez-moi qu'est-ce que vous goûtez, puis qu'est-ce que vous aimez pas quand vous goûtez. On va pouvoir peut-être jaser un petit peu de savoir comment que vous pouvez faire une bière maison qui est bonne, contrairement à une Molson que vous aimez pas. Si vous voulez pas faire de la Molson, dites-moi qu'est-ce que vous aimez pas dans ce type de bière-là, puis on va être capable de vous aider à vous aider.
Parce que des fois, c'est juste dans la conception, certains ingrédients qu'on va peut-être changer, certaines levures qu'ils vont chercher, ou bien au niveau de l'amertume, les types de houblons que vous allez mettre, la quantité de houblons que vous allez mettre, les saveurs, les choses qu'on va parler un petit peu plus tard, de quoi faire attention pour avoir un meilleur résultat. Il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer avec pour aller chercher une palette de goût que vous allez aimer.
Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de prendre la Steam Wessel. Fait qu'on va ouvrir ça. Hey, Kev! T'as-tu vu les nouveaux verres du brasseur?
Eh oui, mon cher Fitz, il s'est finalement mis son logo en vert. Puis je vais avouer que j'aime beaucoup ces verres et que puis je vais apprécier un petit peu plus de boire de la bière dans ces beaux verres.
Fait que si vous voulez les verres du brasseur, on a deux modèles. On a avec le logo du brasseur ou le logo de Fitz, mon autre page du personnel, qu'on va repartir les vidéos YouTube d'ici une semaine ou deux. Fait que si jamais ça vous intéresse d'avoir des verres, ils sont disponibles au coût de 15$ le verre à la boutique du brasseur. Pour l'instant, je veux pas trop les expédier parce que j'ai peur qu'ils brillent. Ils sont vraiment minces, ils sont vraiment, vraiment minces. Hein? On peut dire ça de même. Moi, j'aime ça boire la bière dans un verre mince. Fait que j'ouvre ma Steam Wessel.
Ah, merci.
J'ai tout jeté sur Kev.
Merci. Je te gage que t'as fait trop d'expressions de bras, là. Fait que là, tu l'as shaké juste pour moi, c'est gentil, merci.
Tu étais en train de dire que je bouge beaucoup mes mains quand je suis en train de jaser à quelqu'un, toi?
Non, tu bouges beaucoup, point.
Ah, OK, ouais, c'est...
Je pense que ton cerveau et ton corps suivent ensemble.
Fait que dans cette bière-là, on peut la voir là, à la caméra probablement là, que c'est translucide. Là. Si on met nos doigts en arrière comme ça, là, on va les voir bouger. Oui, on les voit super bien en plus. Désolé pour le monde en podcast. Puis c'est une bière vraiment, vraiment, vraiment bonne. C'est une bière de soif qu'on appelle. Très bien balancée, pas trop d'houblon là-dedans. On goûte le houblon, mais ça ne nous amène pas. C'est pas ça qui va être prédominant dans cette bière-là. Là.
Non, j'ai trouvé que le goût doublon, il y a une longueur vraiment en bouche, mais dans le fond de la gorge. Et qu'au début, tu vas goûter un peu le grain, puis après ça, tu as une longueur dans les autres saveurs qui vont continuer en arrière, qui fait que même quand tu as fini ta gorgée, c'est encore agréable en bouche.
C'est vraiment une bière que j'adore. Que si vous êtes déjà venu au brasseur, puis on a commencé à parler de lager, je vous ai fortement d'aller conseiller. Je vous ai fortement conseillé d'aller à côté, le petit dépanneur à Delsun, juste à côté de ma boutique. Ils en tiennent tout le temps. On les a payés, ces bières-là. C'est pas eux qui nous ont donné. On n'a pas de commandite aujourd'hui. Mais si vous en cherchez, puis vous venez au brasseur, juste à côté, il y en a tout le temps. Les gars sont super sympathiques. Ça fait des années, je m'en dis des milliers d'années qu'ils ont le dépanneur, là, mais c'est
ouais,
pas loin d'être ça. Puis,
Donc,
pour de vrai, je pense que ça fait 30 ans qu'ils ont le dépanneur. C'est deux frères, puis ils commencent à rentrer quelques bières de microbrasserie. Fait que quand vous arrêtez au brasseur, juste le petit dépanneur au coin, vous pouvez aller voir des fois, il peut y avoir des beaux produits de disponibles, dont la Steam Wessel.
Eh oui, et que celle-là, la compagnie Steam Wessel, vous pouvez aller directement sur leur site web. Ils vont vous donner les points de distribution d'où c'est qu'ils sont disponibles. Tout dépendant si les choses vont comme prévu. Mon épicerie le tenait en stock et ça fait plusieurs temps qu'ils ne tiennent plus en stock et que je suis obligé de venir voir Fitz et ramasser de la Steam Wessel pour notre grand plaisir.
Fait que dans cette bière-là, si on veut, si on se réfère comme d'habitude de Steve.
Wow.
C'est Steve en feu présentement à côté de moi, mesdames et messieurs.
Ouais, OK.
Steam Wessel, Steve. écoute, mon cerveau, un matin, il fait des. Fait que si on va sur la BJCP, c'est notre guide général pour nos podcasts. Vous commencez à le connaître après le 9e. Si vous n'avez pas compris où est-ce qu'on allait chercher nos informations, là, écoutez le premier podcast, on en parle. Dans notre style général, est-ce qu'on est dans le style, premièrement? T'sais, c'est supposé de goûter quoi, cette bière-là, d'après eux?
Bien, pour ceux qui veulent chercher, on a plusieurs, dans le BJCP, on a plusieurs lagers. Vous n'allez pas trouver le mot Pilsner dans le style. Vous allez chercher dans Czech Premium Pale Lager. Et si vous voulez regarder dans votre BJCP, c'est là que vous allez pouvoir avoir les specs de type-là, qui était la bière la plus populaire qui a été faite en Tchécoslovaquie, qui était la Pilsner Urquell.
On a disponible aussi de la levure de la Pilsner Urquell.
Oui, et que ces levures-là sont justement la même souche. Et que si vous voulez faire quelque chose de semblable, où on a accès à ces produits-là ici, que ça, c'est pas mal de fun.
Oui.
Et que pour le type de bière que c'est, et qu'on voit environ entre 4,2 et 5,8% d'alcool, et qu'on quand même on a un bon jeu, et qu'à partir de là, si vous aimez ça, une bière plus légère en alcool, ou vous aimez ça plus fort, vous pouvez quand même rester dans le style. Vous allez voir, c'est quand même très golden, très doré, transparent, clean. C'est vraiment comme la couleur du grain avec pas de rajout dessus, parce que la Pilsner, vous allez prendre du grain Pilsner pour bien faire ça, puis vous n'avez pas besoin de rajouter d'autres choses dedans. J'ai fait le test, je l'ai fait 100% Pilsner avec. J'ai pris du Tettnang puis un peu de Zaz dedans. Ça a donné quelque chose de pas mal cool.
C'est un peu. Même vous pouvez en faire en smash, là, Zaz puis Pilsner seulement avec la levure. C'est quelque chose qui se brasse vraiment facilement. C'est pas quelque chose de très, très, très compliqué. Ça goûte quelque chose. Quand c'est bien balancé, quand vous balancez votre houblon avec votre grain à la perfection, comme cette bière-là est faite, écoutez, on peut pas demander plus que ça. C'est des bières. C'est comme si on va changer de style un peu, mais une Vienna Lager, Vienna Carapils. Puis houblon, that's it. Fait que c'est les Pilsner, c'est pas les Pilsner, mais les Lagers, c'est beaucoup souvent les blondes, beaucoup dans ce type-là. Puis la Pilsner ou la Urquell, que le monde appelle des fois.
Pilsner Urquell, ouais.
Ouais, ou comme tu l'as nommé tantôt, là.
C'était moi ça?
Non.
Quoi j'ai nommé tantôt?
Le style.
Ah, la Czech Premier Pale Lager.
Bah, ouais. Ou ça, Czech Premier Pale Lager. Mais tu sais, c'est souvent un grain de base ou deux grains des fois trois, mais c'est plus rare un peu, tu sais. Fait que ça dépend si tu veux avoir côté plus grain, côté plus houblon. Maintenant, même, il y a du monde qui font des IPAL.
IPL.
IPL.
India Pale Lager.
Exactement. Fait que c'est fait avec une levure lager, avec le type de bière comme ça. Pour ces bières-là, qu'est-ce qui est compliqué à brasser? C'est que, vu qu'on a expliqué tantôt qu'il y avait un grain, un houblon.
Oh, ça on appelle ça une smash.
Puis, dans ces types de bières-là, la petite erreur que tu vas faire de brassage, là, la plus petite, mettons que tu veux faire une bière à 4,6% d'alcool, puis tu rinces avec trop d'eau. Tu vas sortir quoi, Kev?
Tu peux avoir des tanins ou encore plus de sucre que tu aurais voulu originalement. Parce que si t'arrives trop de sucre puis t'as pas commencé à balancer ton houblon, ton amertume en conséquence de ton sucre que t'as, ta bière ne vient plus balancer. Et si t'arrives avec trop de sucre parce que t'as pas été comme prévu, ben le nombre de houblons que tu vas mettre était plus comme prévu selon qu'est-ce que vous avez créé. Donc, le résultat, vous allez le voir aussi.
Mais dans ces bières-là, le 4,6, on l'a sorti tantôt, mon Kev, il l'a sorti des tanins. Si on rince avec beaucoup trop d'eau, on va sortir des tanins, puis ça va paraître automatiquement. Il n'y a rien pour cacher les tanins. Il n'y a pas de grain foncé, il n'y a pas beaucoup d'houblons, il y a une levure soft au bout. Les tanins vont ressortir assez facilement. Puis c'est des bières qu'on disait combien tantôt le minimum de pourcent d'alcool?
4,2 à 5,8.
Une bière à 4,2% d'alcool, là, tu commences à vérifier le taux de Brix de ton sucre quand tu rinces pour être sûr et certain que tu n'arrives pas en bas de 1 parce que ça arrive vite. Là. Tu sais, 3,8, 4,2, là, on est sur les limites acceptables là, de dire comme ah, on va rincer comme du monde, puis c'est pas grave. L'autre chose aussi, c'est que ça fait sortir plein de défauts, hein, mon Kev?
Oui, on peut trouver une chose qui peut être un peu acceptable dedans. On va parler du diacétyl, qui fait partie de l'étape de production. Et que quand on va brasser, si vous regardez les recommandations des levures, généralement, les levures vont se fermenter entre 10, 12, peut-être certains 14 degrés Celsius dans certains types de levures. Mais là, ça veut dire déjà là qu'il faudra avoir l'équipement pour être capable de maximiser la production correctement. Aussi, si vous regardez qu'est-ce que vous avez besoin, les levures, tout dépendant le taux d'alcool que vous avez besoin, ça se peut que vous ayez besoin d'un double pitch. Parce que même si vous avez beaucoup de levure dedans, la levure lager a besoin de travailler beaucoup plus, température plus froide, puis ainsi de suite. Fait que le nombre de cellules que vous avez besoin est plus élevé qu'une ale.
Sinon, vous allez dans le Omega. Omega, toutes leurs levures sont faites pour un pitch de 1.06, 1.60. Toutes. Ils disent pas combien il y a de cellules dedans. C'est fait pour 1.60.
Ah, intéressant.
Fait que si vous faites des lagers, vous voulez pas faire de multiplication ou vous voulez avoir juste un paquet, vous voulez pas acheter deux paquets, vous allez dans Omega. Toutes leurs levures, c'est 1.060.
Fait que dans ce temps-là, assurez-vous que votre paquet soit frais. Si jamais vous avez d'autres compagnies, vous avez quelque chose à la maison, dans le pire des cas, si vous voulez pas prendre deux paquets puis vous êtes équipé, vous pouvez faire un starter pour être capable de multiplier votre souche de levure pour être capable d'en avoir amplement dans votre brasse.
Ou vous achetez deux paquets.
Aussi.
L'autre chose aussi, OK, c'est beau, tu as parlé de diacétyl, c'est ça?
Ouais, je m'en allais là, mais en fin de compte, okay, j'ai comme bifurqué.
OK, fait que diacétyl, on parlait de diacétyl un peu. Ça goûte quoi, Kev, le diacétyl? Parce que, tu sais, le monde qui nous écoute sont probablement en auto présentement. Fait qu'ils iront pas sur leur cellulaire, hein? Vous allez pas sur votre cellulaire. Notre ami Kevin Fu va vous expliquer qu'est-ce que c'est le diacétyl.
Le diacétyl va vous donner un goût de popcorn, de beurre, excuse-moi. Ben de beurre à popcorn.
Ouais, le popcorn, ça goûte pas mal le beurre, mais ça va plus goûter le beurre.
Ouais, ben, ouais, c'est ça. Généralement, mon popcorn goûte le beurre. Mon association s'est faite là. Et que ça va donner vraiment quelque chose de. Il me semble qu'il y avait un autre goût qu'on pouvait comparer aussi, là, c'était pas juste
ben,
du beurre.
Mais diacétyl, ça va goûter un peu le caramel au beurre, justement, le butterscotch, comme Kevin dit. Ça va goûter. On a plus tendance à dire beurre. Beaucoup. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça goûte, là, allez aux Trois Brasseurs, demandez une pinte de blonde. D'habitude, ça goûte pas mal le diacétyl. C'est brassé tellement rapidement avec des levures turbo et servi en dedans de 24 heures souvent. Fait que si vous pognez une batch vraiment fraîche, là, vous allez goûter vraiment le diacétyl. Sinon, le brasseur vous prépare des cours de dégustation dans pas long. On parle de. On va faire revenir, mettons, au début septembre, hein? Milieu août, début septembre, nouveau cours de dégustation disponible aux brasseurs. Marquez-nous en commentaire ou envoyez un courriel à info@commercialebrasseur.ca. Si vous voulez avoir les cours de dégustation, ça va être mongol dans la tête.
Ben, c'est quelque chose qu'on doit refaire souvent. On doit apprendre, notre palais doit apprendre à détecter les faux goûts. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec la formation, c'est que vous allez pouvoir mettre des mots dessus. Tu sais, au même principe que quand vous goûtez une bière, puis c'est quoi vous décrivez, j'ai de quoi en tête, mais je suis pas capable de dire un mot. Mais le faux goût va être un peu le même principe. Et que plus que vous allez goûter le faux goût, puis avoir un mot dessus, vous êtes capable, après ça, de le retrouver dans une certaine bière, puis vous allez dire, OK, ça, c'est tel problème, donc qu'est-ce que je peux faire attention pour éviter cette situation-là une deuxième fois?
Puis, Kev, le diacétyl est causé par quoi dans ce type de bière-là?
Mais la réalité, la diacétyl est créée par la levure lager. Et que c'est quelque chose qui se produit par la levure qu'on a besoin.
OK, mais comment qu'on fait pour éviter d'avoir un goût de beurre?
Et la levure a une double action. Elle crée le diacétyl, mais elle peut le remanger aussi.
Comment
elle
fait ça?
Et que la façon qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a fait notre fermentation à basse température pendant une, deux semaines, comme vous voulez, on va monter la température à environ entre 18 et 20 degrés Celsius, et que elle va finir de fermenter et elle va se réactiver. Et qu'en réactivant, les faux goûts qui sont dans l'air ou dans la bière, la levure va la remanger. Et que c'est pour ça qu'on appelle ça, dans l'étape de brassage, un diacétyl reste.
Puis on monte à combien, tu m'as dit déjà?
Entre 18 et 20 degrés Celsius.
Puis on part de 10 à 18 d'une shot?
Non, parce que tout la levure est quand même vivant et très fragile. Et que tout ce que vous allez faire brusquement dans votre brassage, surtout au niveau de la levure, vous allez chercher d'autres faux goûts parce que ça va tomber sur le choc. Ça va donner d'autres faux goûts que vous n'allez pas dans... On appelle ça peut-être les esters, entre autres, mais ça va donner peut-être des mauvais esters. N'oubliez pas que ça va versus le style de bière que vous faites. Dans certaines bières, on veut les esters, on veut les saveurs. C'est pour ça qu'on va fermenter à plus haute température, comme à 25 degrés ou ainsi de suite, parce qu'on va, comme les levures belges ou les levures pour les Offenweizen.
Effenweizen.
Et que ça, on veut le goût de banane, okay, mais ce que c'est voulu. Mais ça, on n'oublie pas, la Pilsner, c'est quelque chose de clean. Et que c'est à peine si on va goûter le grain et le houblon. Et que, comme on a dit, tout ce qui goûte pas correct, ça n'a pas sa place. Donc, faites attention à vos changements de température.
Mais tu montes ça en combien de temps, toi, environ, là, de 10 à 20, quand t'en fais, là, en 2 jours, 3 jours, 1 degré par jour, 3 degrés par jour?
Moi, je vais monter environ en 2 degrés par jour. Puis des fois, qu'est-ce que je fais, c'est que vu que présentement, je travaille à la maison, des fois, je me lève le matin, je vais le monter, puis environ comme 12 heures plus tard dans la journée, je vais le remonter un autre petit shot pour que ça aille graduellement. Mais je l'ai déjà monté de 2 à 3 degrés de la shot avec... parce que dans un sens, est-ce qu'on a parlé ici, le refroidisseur, pas le refroidisseur, mais le fermenteur grandfather, il y a un pad à l'intérieur chauffant. Et que même, c'est plus facile de refroidir rapidement avec le glycol pack, mais le réchauffer va prendre un peu plus de temps. Et que même si vous allez monter à quelques degrés avec cet équipement-là, ça va prendre un certain temps avant d'atteindre la température. Et que là-dessus, pas de stress. Mais quand même, soyez prudent, allez pas d'une shot, allez-y graduellement, parce que tout le travail que vous allez faire, et vu que c'est plus long à brasser et à fermenter cette bière-là, c'est plate qu'après tout ce temps-là, votre bière est comme...
Fait qu'on fermente pendant un bon 2 semaines, j'imagine?
2 à 3 semaines. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que là, présentement, j'ai changé un peu la méthode. J'ai regardé certaines méthodes en ligne, qu'est-ce que les gens faisaient de fermenter à haute température, puis ainsi de suite.
Parce que cave, là, si vous le savez pas, là, il se renseigne tout le temps. Ça va être un peu comme un mini-fit en plus sage. Fait que Cave, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va lire différentes choses, il va écouter différents podcasts, il va écouter différentes vidéos aussi. Il va se renseigner, il va prendre plusieurs... informations, en plus que son cours de maître brasseur, il y a un cours de professionnel, il va prendre plusieurs informations, puis il va vérifier les informations. Un coup qu'il vérifie les informations, il va se faire une idée générale. OK, il y a 4 personnes qui disent que ça marchait, ou il y a 4 vlogs qui disaient que ça fonctionnait bien. Ben Kev, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire son test.
Ben, ce que ça sert à rien, dans un sens, c'est que les gens peuvent avoir une idée de l'expérience, des théories, puis ainsi de suite. Il y a des choses que peut-être que scientifiquement, vous pouvez prouver, mais votre palais le verra jamais. Et que ça change absolument rien si vous êtes capable de trouver une super bonne bière qui a été très bien faite, mais peut-être que vous avez coupé les coins ronds, vous avez fait trouver d'autres façons de faire des méthodes. Parce que dans la bière, j'ai beaucoup trouvé que la tradition est très ancrée.
Mm-hmm.
Puis changer les habitudes de là très, très longtemps, je vois que c'est très, très difficile.
Comme, mettons, faire une primaire puis une secondaire.
Ça, c'est pas si longtemps que ça. On en parlait encore de faire une primaire puis une secondaire.
Il y a encore plein de monde qui vient ici qui font ça.
Oui. Puis dans un sens, c'est pas que c'est mauvais, mais ça l'amène un risque d'oxydation. Ça peut amener un risque de contamination. C'est toutes des choses que ils peuvent aggraver ou ben, vous faire scraper votre batch. Et qu'en fin de compte, une fois qu'on le fait pas, il n'y a pas de mauvais goût dans la bière. On n'a pas vraiment de problème à le laisser pendant 3 semaines dans le primaire.
Fait que la levure, avant qu'elle s'autolyse, l'autolyse de la levure, c'est qu'elle va se manger elle-même puis elle va dégager des faux goûts. Ça prend environ un bon 6 à 8 semaines avant que ça arrive. Fait que quand on fait des mous ou quand tu fais de la bière puis tu dis « Ah, j'ai passé mon 3 semaines, c'est-tu vraiment grave? » Non, tu sais, on dit 3 semaines parce que la levure, elle fermente. Après ça, elle a un repos de la gomme. Ça veut dire que ça va décanter, ça va se stabiliser au fond. Ça va faire la filtration. Elle va finir de faire son processus de si tu veux, de... Qu'est-ce que tu as dit tantôt, là?
Qu'elle a fait son travail de manger puis elle peut se reposer après?
Non, quand tu fais...
Je sais pas si tu t'en vas.
Elle va finir de se consommer, si vous voulez. Elle va ôter les mauvais goûts qu'elle a dégagés durant cette fermentation. On va en manger une partie, comme qu'on expliquait tantôt dans le...
Diacétylreste.
Exactement. Fait que la levure, elle va continuer à travailler un petit peu, puis elle va se déposer. C'est pour ça qu'on demande un 3 semaines. Parce qu'en théorie, après 4-5 jours, le 3/4 des levures ont terminé leur travail de changer le sucre en CO2 et en alcool. Par contre, ça sera peut-être pas la meilleure bière que vous allez bu de votre vie. Tout ça pour dire que c'est pas grave, on peut laisser la levure quand même pas loin de 2 mois sur son lit, si vous voulez, avant qu'elle commence à dégager de faux goûts, qui est de l'autolyse.
Et que des fois, c'est tout dépendant, ça allait faire du dry up, tu le quittes, mais toutes les particules de protéines, la levure, des particules de houblon, c'est pour ça que généralement, on essaye, pour ceux qui veulent le faire, quand on va faire l'ébullition, on va rajouter comme du Irish Moss ou bien du World Flock, qui permettent d'agglomérer les particules puis que ça soit plus facile de tomber dans le fond. Et dans ces cas-ci, de ce genre de bière-là, on veut la bière la plus clean, clean, clean. On veut que ça soit transparent, on veut pas que ça soit brouillé, puis ainsi de suite. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire durant la brasse pour aider à clarifier votre bière, que pendant la fermentation, par la suite, tout va tomber dans le fond plus facilement.
Puis en passant, là, quand vous avez fini de brasser, là, arrêtez de bouger vos fermenteurs. Là, c'est toute la scrap que vous ramassez au fond. Fait que si vous avez trop de protéines au fond, mettons un brew in the bag ou dans un chaudron avec un faux fond, avec un, soit un faux fond ou un bazooka, c'est pas assez pour filtrer nécessairement tout au complet. Puis allez voir mon dernier vidéo avec la Creamel. Je le montre quand je le tasse, mon chaudron, après qu'il y a eu l'écoulement naturel. Toute la cochonnerie, c'est devenu laiteux, blanc, 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 blanc. C'est plein de protéines, plein de mauvaises choses qui va juste vous faire un gros dépôt au fond de votre fermenteur. Puis anyway, vous allez le scraper, cette partie-là.
Moi, j'ai lu d'autres choses en ligne là-dessus.
Ah ouais, t'as lu quoi, toi, là-dessus?
Les tests ont été faits pour, jusqu'à un certain point, de ramasser la cochonnerie qui est dans le fond du mash après l'ébullition pour le mettre dans la fermentation. Et ces protéines-là ont donné comme résultat de donner un boost. Les protéines ont aidé la levure à faire un meilleur travail. Et à la fin, la bière n'était pas plus brouillée ou moins brouillée.
Non, par contre, tu as quand même un dépôt de 4 litres que tu ne serviras pas.
Ben, dans un sens, ça va tomber à la fond, dans le fond de votre fermenteur. Que veut pas à la fin du fermenteur, ça on ne touche pas à ça. Et qu'on veut pas que ça soit trouble, on veut pas bouger au minimum. C'est pour ça que si vous allez embouteiller, vous allez probablement faire un transfert pour pouvoir prendre juste la belle partie de la bière et non tout le dépôt des protéines, des houblons et de la levure qui.
Fait que dans ce temps-là, tu mets de la nourriture à levure énergétique.
Aussi, ça l'aide aussi.
Puis t'es correct. Mmh. Laisse faire ton fond, puis avec ton gros trouble de 25, de 5 litres au fond, puis que tu risques de scraper de la batch à cause de ça. Écoutez pas Kevin Fu.
Non, parce que moi, je ramasse quasiment tout le temps mon fond, puis ça fait toujours une super bonne job. Oui, il en reste quand même à fond. La majorité de la cochonnerie reste dans le fond de ma cuve d'ébullition. Mais moi, je vais pencher mon grandfather un peu sur le côté pour aller chercher le maximum de liquide parce que pour mon travail, je veux le maximum de bière.
Tu vois, ça, c'est un travail de cheap. Faites pas comme Kev en fut parce que Kev, lui, est équipé pour faire des transferts, par exemple, avec un conique. Fait que vraiment, tout, quand il fait son cold crush, tout se ramasse au fond. Puis lui, il peut ouvrir sa valve. Puis quand ça commence à couler blanc, il laisse ça dans un pot à côté. Puis quand c'est de la bonne couleur de sa bière, ben il va le mettre dans son keg ou en bouteille. C'est ça que tu fais, mon Kev?
Différemment. Mais pas loin de ça, qu'est-ce que je fais, c'est que mon grandfather, le fermenteur, il a un kit de transfert. Et qu'est-ce que je fais, c'est que je vais prendre une bonbonne de CO2, puis la transfère à pression. Et que moi, la bonbonne de CO2, je vais avoir une tige qui va passer sur le haut de mon fermenteur. Et qu'une fois que c'est ouvert, la pression va faire que le CO2 rentre dedans, et donc je ne rentre pas d'autre oxygène, et ça va faire ressortir la bière par la pression, et la tige ne va pas aller chercher toute la cochonnerie du fond. Et c'est une autre façon de le faire, parce que si oui, j'aurais utilisé la valve, oui, tu as raison. Généralement, faites attention pour ne pas pogner cette partie-là, pour s'assurer que tout est beau, puis que vous n'allez pas extirper les cochonneries pour avoir une belle bière. Mais c'est juste que moi, je le fais par le top de mon fermenteur, qui me permet d'aller chercher le maximum sans avoir de cochonneries et en ayant un circuit fermé.
Fait que c'est ça. C'est tout pour le podcast, j'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas. Fait que si on continue dans notre lager, parce qu'on a un peu bifurqué vers les levures, l'autolyse et toutes ces choses-là, on est un peu dans les fougous de la Pilsner Lagers, Steam Whistle.
La chose qui ressort beaucoup, qui est très souvent, et qui est quand même, qui on veut pas dans ces bières-là, c'est du DMS.
C'est quoi ça, du DMS? Ça se produit quand, ça, le DMS, mon Kev?
Bien, le DMS se crée automatiquement quand on va faire l'empâtage. Et que quand on va mettre de l'eau chaude avec le grain, il va avoir une réaction qui va se faire et ça va donner un goût de blé en crème.
Pourri.
Ben, ça, c'est un peu... Pour de vrai?
Tu peux l'avoir.
OK. C'est possible. Fait que ça, c'est quelque chose qui se fait dans toutes les bières. Automatiquement, le DMS est créé quand on va faire notre empâtage.
Ah merde, qu'est-ce qu'on fait pour l'enlever?
Mais on veut s'en débarrasser à tout prix. Et qu'il y a quelque chose dans notre étape de production qui se fait automatiquement dans tous les brassages. Et que quand on va faire bouillir notre bière, l'évaporation, il va faire évaporer ce mauvais produit-là qui a été créé. Et qu'on va bouillir pour stériliser, puis on va bouillir en même temps pour pouvoir se débarrasser du DMS. Et qu'on ne veut pas ce goût-là. Surtout dans ce type de bière-là. Et que souvent, vous allez voir dans les recettes que l'ébullition est des fois 1h30 et non 1 heure. Le DMS, n'oubliez pas que chacun a ses palais. il y a des gens qui vont être plus sensibles à détecter ces faux goûts-là, puis il y a des gens qui ne le verront jamais. Et que ça vous autres, à votre bière à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir si vous êtes capable de le détecter ou non. Si vous le détectez beaucoup, augmentez votre ébullition plus longtemps. Petit détail très important. On dit toujours qu'on veut, quand on fait de la cuisine, tout le kit, qu'on fait l'ébullition, on va mettre un couvercle dessus. L'évaporation est la clé. Et que si vous mettez votre couvercle, ben, vous, tout ce que vous êtes évaporé va retomber dans votre bière. Mais il y a une autre chose qu'il faut faire attention. Quand on dit après l'ébullition qu'il va falloir refroidir notre bière, quand vous avez des équipements, malheureusement, par exemple, vous dites « Hey, je vais le mettre dans la neige dehors », n'oubliez pas que si vous le mettez dans la neige, ça fait une isolation et que ça ne marchera pas. Il y a des gens qui vont le mettre directement dans la glace, dans un bain, ils vont essayer de bouger tout ça. Le plus longtemps que ça va prendre pour refroidir votre bière, le plus que le DMS va se recréer. Et que si on dit qu'on veut laisser ça traîner, puis ça va refroidir naturellement, puis on va mettre la fermentation plus tard, déjà là, vous allez peut-être causer déjà ce problème-là.
L'autre chose aussi, c'est que tu peux, à des certaines températures, avoir des bactéries qui vont se propager dans ton moût avant ta levure. C'est un autre problème.
Fait que c'est pour ça que la levure, quand ça crée de l'alcool, ça devient, entre parenthèses, jusqu'à un certain point, un genre de stérilisant. L'alcool va aider justement à éviter d'avoir des bactéries, parce que l'alcool va prendre son espace.
Fait que, pas trop compliqué, refroidir le plus rapidement possible, ôter le couvert pour faire l'ébullition, faire un diacetyl rest qu'on fait la Pilsner. Puis l'autre chose, Kev, là, à la minute, là, moi, un coup, j'ai fait mon diacetyl rest à 20 degrés, je me mets ça en bouteille.
Ben, si on veut avoir une bière très claire, l'étape la primordiale pour ce type de bière-là, on appelle ça un cold crash. Et c'est un refroidisseur que faut trouver le moyen... que selon votre équipement que vous avez, d'aller descendre la température de votre fermenteur à la température entre 1, 2, 3, 4 degrés Celsius. Et automatiquement, même si dans tous les types de bières, tous les dépôts vont se tomber dans le fond. Et que ça va permettre, c'est une autre façon de clarifier votre bière. Mais faites très attention, si vous descendez votre température trop rapidement, Vous allez créer une pression... C'est-tu négatif ou positif?
Négatif.
Vous allez créer une pression négative.
Le CO2 se comprime au froid, fait qu'il va faire un suckback, qu'est-ce qu'on appelle, et qu'il va faire pénétrer de l'oxygène dans votre fermenteur. Si vous avez une bombe en S, automatiquement, si ça sort, ça va rentrer. Si vous avez une bombe 3 pièces, souvent le liquide va se compresser, fait qu'il va monter puis il va se rentrer dedans. Si vous avez un blow-off, le liquide va passer à travers votre tube puis il va rentrer parce que le CO2 qui a pris la place, mettons qu'on a un gros contenant rempli de CO2, puis on le met au froid, le CO2 va se comprimer. Fait qu'il va rétrécir, puis la place qui est disponible, ben elle a besoin de quelque chose pour le combler. Fait que si c'est pas de l'oxygène, c'est votre star sand. C'est automatique. Ou c'est de l'oxygène, ou c'est du star sand, ou de l'eau si vous avez mis de l'eau. C'est pour ça qu'on met jamais d'eau.
Oui, et que le star sand va s'assurer que, un, c'est tout est stérile, puis c'est pas dramatique si ça tombe dans votre bière. Sauf qu'il y a une limite de liquide qu'il y a dedans. Et qu'une fois qu'il n'y a plus de liquide, c'est de l'oxygène qui rentre directement. Et donc, vous allez oxyder votre bière. La bière va durer moins longtemps et elle va changer de couleur avec le temps. Et que c'est une autre chose qu'elle doit faire très attention. Et que généralement, on peut descendre environ d'un degré par 12 heures.
Ouais, ça va empêcher pas mal ton suckback parce que tu n'auras pas une pression super rapide. Fait que ça va pas faire...
C'est one shot.
On appelle ça comment, Crab, faire ça?
Un cold crash?
Puis ton lagering, lui, il serait quoi de bon?
Le cold crash est un lagering. C'est que la différence, c'est que au lieu de dire qu'on va faire un petit nettoyage pendant environ 4 jours, mettons qu'on fait un cold crash de 4 jours, là, on peut garder notre étape de lagering de cold crash pendant 2 à 3 semaines.
Des fois même un mois, ouais.
Oui, très facilement. Et que c'est pour ça que votre bière, votre ale, est prête beaucoup plus rapidement, mais en cause de l'étape de lagering, pour les types de bières comme là, vous allez vouloir le rester au frais pendant plus longtemps. Et c'est ça qui va vous donner une bière très, très claire. Et qu'une fois que la bière est claire, ben brassez pas votre fermenteur parce que vous allez recommencer.
On recommence à zéro, fait que vous assurez de mettre votre fermenteur à une bonne place pour fermenter et pour faire le lagering. Il faut faire vraiment attention aussi. Souvent, le monde, je vois qu'ils font des lagering ou des cold crash dans leur frigo. Puis là, ils sortent le tourri du frigo, le fermenteur du frigo, l'emmènent dans la cuisine pour fermenter. T'sais, vous avez tout bougé, votre fond complet qui a commencé à se remonter. Fait que laissez-le environ une heure ou deux finir de décanter si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un fermenteur comme Kevin avec un système au glycol. T'sais, laissez-le fermenter, faites pas tout d'une shot tout de suite, parce que sinon, ben, votre processus de cold crash ou de lagering a servi à...
Rien, avec le temps que vous allez perdre pour ça, ben, rendu là, vous auriez pu boire votre bière 2-3 semaines avant, puis ça aurait donné le même résultat.
Fait que on a parlé beaucoup d'Astim Wessel, on a parlé beaucoup du comment faire cette bière-là. C'était un gros sujet sur le lagering, sur les c'est un peu un sujet tabou pour les brasseurs amateurs de faire ça, parce que, comme on vous l'a expliqué, ça prend beaucoup d'équipement. Par contre, si vous avez une pièce durant l'automne, le printemps ou l'hiver qui peut être à 10 degrés pour fermenter, vous pouvez prendre votre tourie ou votre fermenteur, le mettre dans le 10 degrés et par la suite aller dans une pièce un petit peu plus chaude. On pourrait dire un 15-20 degrés si vous avez une petite chambre froide pour faire votre montée en diacétyl. Par la suite, vous pouvez le mettre dans votre pièce à 20 degrés pendant 2-3 jours ou une semaine. Puis vous pouvez refaire les étapes pour redescendre votre température jusqu'à 10 degrés. Si vous avez un petit frigo que vous pouvez faire votre cold crash, tant mieux. Ça va vous donner un peu une idée comment faire une lager ou une Pilsner lager. Peut-être que ce sera pas la meilleure que vous avez faite, mais ça va être un moyen de l'essayer puis de s'amuser à vouloir en faire une. Oui, c'est long à faire. Un fermenteur, c'est 20$ en passant, là. Fait que vous perdez rien de l'essayer comme ça durant l'hiver. Moi, j'en ai fait qu'au début, quand j'étais moins bien équipé, puis ça avait fonctionné vraiment bien. C'est sûr que c'est compliqué de gérer 2-3 pièces de température, mais j'avais ma place à 10 degrés, j'avais une place qui était un petit peu plus froide juste à côté de ma place à 10 degrés, puis j'avais une place un petit peu plus chaude où je fermentais le reste de mes bières normalement. Fait que j'ai fait des très bonnes lagers comme ça, puis c'est la manière que j'ai commencé à les faire avant d'être équipé avec des glycol packs, des fermenteurs à conique, des fermenteurs qui peuvent refroidir. Fait que ça avait quand même bien fonctionné, puis j'étais satisfait. Fait que c'est ça qui m'a fait un peu découvrir les lagers.
Puis, pour ceux qui ont un exemple qui va avoir peut-être un minimum d'équipement, il y a une façon de détourner ça un petit peu. C'est ceux qui ont un exemple des congélateurs tombeaux. Vous pouvez acheter un contrôleur.
Avec, moi, j'appelle ça des Angry Bird.
Oui, je sais que tu l'as dit. Avec Ink Bird. Et que ça vous permet de brancher directement votre la prise de votre... dans un sens, la prise de votre congélateur. Et lui, avec la sonde, il va couper le courant en conséquence pour pouvoir garder la température au besoin. Et que vous pouvez faire, si vous avez un petit congélateur, vous avez des tourées de vitre ou une chaudière, mais vous pouvez faire votre cold crush, vous pouvez contrôler la température sans nécessairement investir dans de gros équipements. Puis si vous aimez ça, puis vous avez comme trouvé la passion de vouloir tout contrôler encore plus précisément.
Un peu freak control comme mon chum Kev.
Ça fait plaisir. ça coûte cher un control freak, mais qu'est-ce que tu veux? Le monde, il parle de mes bières.
Ça fait
dit,
des bonnes bières.
C'est ça. Après ça, si ma bière est pas bonne, c'est que je me suis trompé dans ma recette parce que...
C'est pas l'équipement, c'est pas seulement pas ton équipement qui peut faire en sorte que t'as pas fait une bonne bière, mon Kev. Je suis désolé, quand ça goûte le fromage à la crème, ça goûte le fromage à la crème.
Elle goûtait pas ma fromage, ma bière surette. J'ai mis des copeaux de chêne dedans qui ont trempé dans tes tequila, c'est ça la différence. Je me suis mis le nez dedans tellement de fois, mais écoute, encore là... Fitz peut avoir le nez plus sensible, puis il peut être plus fragile à détecter ces arômes-là que moi, j'ai comme absolument rien vu. Comme là, ma dernière, que là, tu es très content, que j'ai fait une surette à la lime confit.
Mais il manque de lime.
C'est ma première expérience.
Hey, Kev, t'as-tu vu sur mes réseaux sociaux la belle photo que j'ai postée il y a cette semaine?
Non, désolé.
J'étais en train de boire une Corona, puis vous savez, dans la Corona, c'est qu'est-ce qu'on met d'habitude?
Tu sais, c'est la lime pour empêcher que les bébés tombent dedans. Là.
Moi, je l'ai mis dans mon verre. Fait que je me suis dit, je suis rendu là dans ma vie, mettre la lime dans ma bière. Ça se peut-tu? Et j'ai fait rire de moi sur les réseaux sociaux. En passant, si vous l'avez pas vu, c'est parce que c'est sur ma page personnelle. T'sais, j'ai quand même un peu de... Comment on dit ça?
T'as trop de réseaux sociaux?
Non, aussi, là, mais je l'ai pas mis sur ma page personnelle. J'ai juste mis sur ma page personnelle parce que c'est plus des amis qui voient ça, tu sais, que mes clients qui pourraient se faire une mauvaise impression de moi.
Avec raison.
C'était une petite joke que beaucoup de monde ont ri, fait que je trouve ça super comique de vous le raconter en podcast. Parlant de Corona, écoutez, c'est plate à dire, mais présentement, je vous ai dit que j'avais un trip de lager. C'est probablement les deux bières que vous voyez ici, ou que vous voyez pas parce que vous êtes en auto. La Corona et la Stella, c'est probablement les deux bières que je bois le plus de ce temps-ci. À part les lagers que je fabrique moi-même, d'ailleurs. Si je vais quelque part, moi, je suis beaucoup en keg. Hein. Fait que si je vais quelque part chez ma sœur ou chez des amis, ben souvent, je vais emmener de la Corona. Puis là, c'est rendu que le monde trouve ça vraiment drôle. T'sais, j'en ai de la grosse bière de microbrasserie. J'en ai des bières foncées, torréfiées, puis des bières t'sais, vraiment goûteuses. Puis, tu sais, hey, check ça, le nouvel micro. Check ci, check ça, c'est super bon. Puis là, ils me revoient arriver avec des Corona puis des Stella. Je peux dire que ça fait rire le monde, pas à peu près. Mais, écoutez... C'est des bières qui sont vraiment bien faites. C'est incroyable comment Corona, Stella, Steam Whistle, qui je suis pas rendu à de la batte, moi aussi encore, là, malgré que c'est la batte qui doit brasser Corona puis Stella, mais ça, c'est un autre débat. Mais je suis pas rendu à boire la bode. Mais je trouve que c'est quand même assez goûteux pour le type de bière. Puis quand j'ai emmené les cannes tantôt, parce que c'est moi qui, pour une fois, qui ai payé la bière. D'habitude, c'est nos commanditaires qui nous fournissent notre bière de microbrasserie. On les salue. Fait que, pas cette fois-ci, Kev, il savait pas trop. S'il savait qu'on pouvait de la simoisole, fait que je l'ai-tu emmené? Il dit non, il n'avait plus mon dépanneur. Pas de trouble! Je vais aller au dépanneur à côté, aller voir les deux frères, aller chercher ma petite bière. Puis j'arrive avec une Corona puis une Stella. Fait qu'il me regarde avec un petite cave. Fait que c'est super drôle, genre. Puis c'est ça, j'y disais, tu sais, j'ai dit, il dit, ah, on va pouvoir parler d'un nouveau Fougou. Puis c'est quel le Fougou tu voulais parler, mon Kev?
Ben, moi, la chose que je vois souvent, quand on fait une association avec ça, c'est le skunk, le goût de moufette.
Le goût de moufette, on va le retrouver. Si vous n'avez jamais bu une bière au goût de moufette, Corona, Stella, avant, il y en avait un petit peu plus. Puis on va en parler du goût, là. Mais,
surtout en bouteille.
Surtout en bouteille, mais on va en parler de pourquoi, du pourquoi, du comment. Mais Heineken, là, automatique, il va avoir ce goût-là. Fait que si vous aimez la Heineken à cause du petit goût de moufette, je vais vous donner le truc comment le faire, puis le truc pour pas le faire. Si vous aimez pas justement à cause de la goût de moufette, je vais vous donner le truc pour pas le faire, puis le truc pour le faire. Hein? Fait que vous décidez si vous voulez l'avoir ou non. Puis pourquoi que Kevin m'a dit automatiquement quand j'ai emmené de la Stella ou de la Corona que ça goûtait quoi, Kevin, tu m'as dit?
Skunky.
Puis là, j'ai répondu non.
Ben, c'est ça. Fait que moi, l'association se fait automatique.
Puis là, j'ai dit, non, c'est vraiment pas. J'ai dit, si tu vas au Mexique puis tu prends une Corona en fût, tu vas voir, ça goûte vraiment pas à moufette. Puis il m'a répondu.
Ben, c'est à cause que ils ont eu une passe qu'ils ont faite la Corona en bouteille foncée. Et voilà plusieurs années au Mexique, et ça l'a pas levé. Et qu'ils ont gardé les bouteilles claires. Sauf que à chaque fois que j'étais au Mexique, j'ai jamais vu de Corona en fût. Je l'ai toujours eu en bouteille. Avec le goût skunky, avec la lime dedans, faisait partie du l'association puis du trip de la Corona.
Si vous la prenez en canette, ça goûte vraiment pas le skunky, ça goûte vraiment pas la moufette. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans le processus, qu'est-ce qui vient en sorte que ça goûte la moufette. C'est les rayons du soleil qu'on va dire, mais plus spécifiquement, c'est les UV. Pas parce que vous mettez votre fermenteur à la lumière incandescente ou au LED. Ici, il n'y a pas de UV là-dedans. Là. Vous n'allez pas pogner un coup de soleil parce que vous êtes devant des LED ou devant votre bureau avec des néons ou dans votre sous-sol avec vos incandescents. Là. Pour pogner un coup de soleil, ça prend du UV. Puis le UV interagit directement avec le houblon qui est dans votre bière. Puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va goûter la moufette. Fait que si vous prenez une Corona en bouteille, mais tu sais, ils ont été tous transportés au complet. Ils ont été transportés en bateau. Oui, c'est dans des caisses fermées, mais souvent, on a de la luminosité dans les dépanneurs qui viennent.
Le storage va jouer un rôle.
Oui, le storage, puis ça va venir de la lumière. Vous le prenez, vous le mettez sur votre table pendant que vous mangez. Il y a de la luminosité du soleil qui est disponible, qui va commencer à faire un peu plus le goût de moufette, de skunk, si vous voulez. Puis la Corona était beaucoup moins forte que la Heineken. Right?
Oui, c'est vrai. L'Heineken est beaucoup plus prononcé dans ce goût-là.
Pourquoi? Parce que Heineken, eux, ils passent leur bière à travers des filtres UV. Fait que le filtre UV va, oui, stériliser la bière parce que le UV, ça stérilise super bien, mais ça va aussi...
contaminer la bière avec les rayons. Puis eux, faut que vous compreniez que c'est rendu une question de marketing.
Mm-hmm.
Et que ça, c'est leur produit final. Tu pourrais pas dire « Hey, je voudrais goûter qu'est-ce que ça goûte ». Non, c'est pas le principe ça. Les gens, s'ils achètent une Heineken, ils savent qu'est-ce que ça va goûter, donc ils veulent que ça goûte ça. Et qu'eux, ils peuvent plus changer leur recette. S'ils changeaient leur recette, il faudrait qu'ils appellent la bière autrement parce que le marché s'attend d'avoir ce produit-là, donc ils n'ont pas le choix
d'aller chercher le petit goût de moufette qui font plaisir à beaucoup de personnes.
Comme quoi qu'un défaut dans une bière peut devenir une qualité dans une autre. Si tu fais une, si tu veux faire une Heineken, j'ai des clients qui l'ont fait d'ailleurs, qui ont mis leurs bouteilles au soleil. Je leur avais conseillé de faire les bouteilles, les mettre au soleil pendant une journée ou deux, puis les resserrer dans leur caisse, les mettre au frigo. Mon client, il m'a dit, écoute, je suis allé me chercher une caisse, mes amis aiment beaucoup, beaucoup ce type de bière-là. Fait qu'il y avait déjà des bouteilles de Heineken. Il est allé les mettre au frigo. Il a sorti les bières à ses amis, ils les ont ouverts, ils les ont donnés pour pas qu'ils voient le bouchon que c'est pas marqué Heineken dessus. Puis tout le monde était sûr qu'ils buvaient de la Heineken.
Pour vous dire que les goûts sont pas à discuter. Même si c'est un faux goût, il y a des gens qui peuvent aimer ça. Et rappelez-vous qu'on parle de faux goût. Regarde, il y a des compagnies au Québec, on parlait justement là, le goût de beurre, le goût de butterscotch.
Mm-hmm.
Il y a des compagnies au Québec qui font exprès pour avoir ça. On parle de microbrasserie, là. Ils veulent faire ça pour avoir cette saveur-là qui va se retrouver dans plusieurs de leurs bières. Et qu'un défaut peut devenir une qualité pour le type de bière versus ce que les gens et les consommateurs aiment.
On va retrouver ce type de goût-là à travers des levures, comme on expliquait tantôt. Mais une grosse levure, la levure à Scotch Ale, là, il a tendance vraiment à sortir ce type de goût-là. Fait que si vous ne fermentez pas comme du monde... Moi, j'ai déjà voulu avoir, pour une vidéo qu'on avait faite, un live sur Facebook au début du brasseur avec mon ami Pascal Desbiens, avec qui on donne des cours. On a voulu faire une bière au beurre pour mon ami qui a un restaurant qui s'appelle Nourri au beurre. Hein? Concept, on voulait une bière qui goûte le beurre. Mais... sur toutes les moûts qu'on a faites, on a réussi à en avoir un qui goûtait un petit peu, puis c'est parce qu'on a réussi à se taper la fermentation juste avant pour faire le goût. Parce que sinon, les autres, ça a disparu assez rapidement, puis on a essayé beaucoup de choses là, pour l'avoir. Là, on a fait tout qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Fait que comme quoi, quand on veut des fois reproduire un faux goût, c'est plus difficile que peut-être pas le vouloir.
Puis ça me fait penser à quelque chose. Si vous faites une batch à la maison, puis en fin de compte, vous trouvez qu'elle goûte pas bon, soyez patient.
Mm-hmm.
C'est vivant, la bière. La levure est vivante. Il y a encore des composantes dedans. Attendez 1, 2, 3, 4 semaines et les goûts peuvent savoir changer. Ils peuvent avoir réparé. Ça peut être meilleur dans un mois, tout dépendant de le type de bière, puis ainsi de suite. Et si vous pensez que la bière est pas bonne, soyez patient, attendez, puis regoutez. Mais quand je vous dis ça, laissez votre bière à température pièce pour qu'elle puisse travailler. Parce que si vous mettez toute votre bière dans le frigo, tout se stoppe automatiquement. Et que dans ce temps-là, il n'y aura pas d'évolution qui va se faire.
La patience est une vertu, mon Kev.
Eh oui, mais ça dépend avec les buveurs de bière. C'est rare que ça arrive que la patience est une vertu.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut que tu brasses assez régulièrement. C'est pour ça qu'il faut pas t'attendre d'en manquer. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes chercher des moûts au brasseur quand tu n'es pas sûr d'avoir le temps de brasser. Puis il faut jamais t'arrêter, sinon tu vas être pris à en acheter. Puis on se rend compte souvent qu'avec le temps, notre bière est un petit peu meilleure que ce qu'on achète. Pas parce qu'on est des meilleurs brasseurs, même souvent on est moins compétent que peut-être la microbrasserie, mais on brasse pour nous, à nos goûts à nous. Fait que on s'entend que le spaghetti que ta mère faisait, c'était le meilleur au monde. Pourquoi? Parce que t'as été élevé avec, puis ces goûts-là, c'est des goûts réconfortants. Fait que quand on fait notre bière, c'est un peu la même chose. T'sais, on a nos goûts qu'on aime plus que d'autres, puis c'est comme ça qu'on est capable de créer ces goûts-là. Si vous avez aimé notre formule de faux goût en même temps qu'on parlait de bière, parce que on trouvait ça important d'en parler dans ce type de bière-là, parce que c'est
primordial. Là. C'est quelque chose qui est très facile à créer par accident. Et en même temps, ça fait partie de votre apprentissage. Que plus que vous allez connaître et mettre le doigt sur la description ou d'apprendre à connaître c'est quoi les vos goûts, vous allez avoir avec les étapes quoi faire ou quoi faire attention dans certains cas pour éviter ou pour corriger votre prochaine batch.
Fait que si vous avez apprécié le fait qu'on fasse ça, on pourrait en discuter un petit peu plus dans différents podcasts où on pourrait faire des podcasts très précis sur les faux goûts. Essayer de trouver des bières qui ont des faux goûts, hein? Comme celle que tu m'as envoyée l'autre jour là, qui goûtait le fromage.
Non, elle goûtait pas le fromage, ma bière. J'ai une tranche de vie, désolé.
Vas-y.
Parce que, tu sais, il l'a emmené. Fitz a emmené la Stella Artois, puis il voulait que... J'aime ça compter, cette histoire-là.
Ah, ça y est.
Désolé. La Stella Artois, c'est une bière européenne d'importation, puis pour ceux qui ont connu depuis, je pense, les années 90, à peu près, la publicité qu'ils ont faite, la Stella, c'était toujours été emmené sur quelque chose de très prestigieux. C'était vraiment fancy, c'était de la qualité, puis ainsi de suite. Pour ceux qui ont voyagé en Europe et qui connaissent les gens qui ont été voir là-bas pour dans des bars, tout le kit, pour ceux qui ne savent pas, la Stella Artois en Europe est considérée comme une bière de batteur de femmes. Et que c'est vraiment comme le côté poche, la bière poche. Aux États-Unis, la bière de batteur de femme, c'est la Pabst Blue Ribbon, qui était réputée pour dire que c'est comme la bière comme blarc, c'est de la bas de gamme. Puis en Europe, c'est la Stella Artois. Mais pour ceux qui viennent à Québec, là, ben vous, au Québec, ben c'est comme si que la publicité a très bien marché. Il est partout dans les restaurants. Puis c'est comme, oh, je vais me payer un petit luxe parce qu'elle coûte plus cher, c'est l'importation, c'est la Stella Artois. C'était la tranche de vie de la Stella. Donc, c'est ça
que j'avais à dire. Toutes les fois, j'ai une Stella de ce temps-ci, j'en ai beaucoup. Il me compte cette histoire-là sans arrêt. Je suis comme, Kev, tu m'en as dit 25 fois.
Ben, je suis pas obligé de le dire. Je vais juste dire, OK, je vais prendre une bière de batteur de femme.
Ouais,
puis,
exactement.
C'est aussi simple. Ça se finit dans une phrase.
Fait que j'espère que t'as aimé le type de podcast qu'on a fait aujourd'hui. Un peu moins porté sur la microbrasserie québécoise, mais un petit peu plus sur notre style de bière. Petite tranche de vie, petit faux goût. On a voulu changer un petit peu le podcast pour faire un petit peu changement. Hein. On a fait un gros sujet, NAIPA 1, 2. Fait que là, on est rendu dans les lagers un petit peu moins communs, on va dire. Puis un petit peu plus tabou. Ouais, plus tabou. Hein. Tout le monde, quand on parle de lager, ont dans leur idée...
Les bières commerciales, les grosses bières commerciales.
Des bières commerciales, comme quoi qu'on avait même aujourd'hui. Mais c'est possible d'en faire des très bonnes. Il y a plein de sortes de lagers aussi, puis de couleurs différentes. On peut avoir des stout lagers, Aster, des IPA lagers. Il y a des rousse lagers. Il y a plein de sortes. C'est beaucoup allemand, hein, beaucoup de types allemands qui sont des lagers qui ont sorti. Ils ont une Isibock.
J'ai jamais entendu parler.
C'est une bière de glace. On va essayer dans le temps de qu'il va faire un petit peu plus froid peut-être pour en parler, mais c'est une bière super intéressante à fabriquer à la maison, puis super intéressante à boire. S'il n'y a pas grand micro au Québec qui en font, je sais de l'alchimiste en faisait. Fait que si vous avez la possibilité de trouver cette bière-là ou de la fabriquer ou lire sur le sujet, ben je vous invite fortement à le faire. C'est une bière super cool à faire, puis super sucrée. C'est ce genre de porto de bière là, c'est vraiment débile. T'as jamais bu ça, Kev?
Non, ça, le nom me dit rien, puis j'ai jamais fait l'expérience avec ça. Que disons que j'aime beaucoup le porto. Bizarrement, j'aime pas les bières sucrées ou les vins trop sucrés, je déteste ça, mais le Porto est un coup de cœur.
On a parlé d'un gros sujet aujourd'hui, on a parlé des bières commerciales comme que je disais tantôt. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, ben il y a plein de documentation qui est disponible. Sinon, ben posez-nous des questions. Si vous avez des sujets qui vous intéresseraient sur notre podcast, c'est quoi l'adresse courriel pour nous contacter, mon Kev?
info@lebrasseur.ca.
Mais pour le podcast, c'est podcast.lebrasseur.ca. Hein, Kev? On l'oublie pas, notre courriel officiel du podcast du Brasseur. J'ai pas fait ça juste pour le fun.
Il me semble que t'as mis un point de trop. C'est pas podcast@lebrasseur.ca?
C'est exactement ce que j'ai dit. Vous réécoutez.
Ouais, c'est ça. Écoutez-le, là, puis voir ce qui est raison.
Fait que c'est tout pour le podcast. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas,
dites que nous aimez et venez me voir sur ma page Facebook ou Instagram sur Kev en fût ou kev.en.fu.
Hein, il commence à être popé sa publicité.
Ouais, ben écoutez, tant qu'à m'avoir investi, là, j'aimerais ça, là, que le monde puisse partager mon bon plaisir de la bière. Moi, ça, je fais ça en principe pour vous. Parce que moi, je prends ma bière puis boire ma bière, je suis très heureux, mais je suis très content d'en parler, parce que quand Fitz me voit parler de bière, généralement, il voit mes yeux pétiller.
Gros pétillage dans ses yeux, gros sourire. Mon fil, mon Kev, il filait pas trop au début du podcast. Puis regardez-le, là, il y a l'air le gars le plus heureux au monde. C'est sûr qu'à passer une heure avec Fitz le brasseur à côté de soi, avec l'énergie qu'il dégage, t'as pas vraiment le choix d'être dedans un moment donné. Puis en plus, il est même pas over.
Moi, je vais dire que c'est la Steam Whistle qui me rend heureux.
Fait que c'est tout pour le podcast. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-nous les savoir. Oublie pas de t'abonner. Quand t'es prête, ben abonne-toi, partage en grand nombre. Parle-en au monde qui tripe sa bière un peu, notre podcast, hein, sur une un petit peu de publicité, ce serait super cool. Si vous nous écoutez en vidéo ou en podcast, on est vraiment content de vous avoir vu ou
merci
entendu.
Beaucoup.
Merci beaucoup. On a tout le temps en description sur notre vidéo YouTube une place pour nous faire des dons. Les dons vont nous servir à acheter du nouveau matériel, des nouveaux micros, des nouveaux pieds que je viens de casser aujourd'hui. Hein? Que ça arrive des fois qu'on casse des choses. Ben c'est ça, un matin, j'étais un petit peu trop nerveux à commencer, puis trop excité, puis ça a cassé. Fait que vive le tape électrique et le tape...
Le duct tape.
Ben, c'est pas du duct tape, c'est du gaffe tape. Ça colle moins quand tu l'enlèves, mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera dans un autre sujet. Fait que c'est tout pour le podcast, comme que je disais, là, à 5 minutes. Salut, j'ai une grande gueule.
On va couper ça au montage.
Ciao tout le monde,
bonne brosse.